Bonjour.
Bonjour.
Je crois que vous n'êtes pas dans une déprime profonde vu la grisaille ambiante. Non ? Pas encore ?
Pas encore.
Bon, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions depuis samedi, depuis lundi dernier, pardon ? Non, je vois que tout semble clair. Alors, on était resté dans le cours, je voulais donc Bible, canon et inspiration, au paragraphe sens et fonction du canon. D'un point de vue purement externe et sociologique, il est évident que l'établissement d'un canon, d'une règle, est un acte inévitable pour un groupe social qui se réfère de manière fondatrice à des textes. Il faut définir, il faut délimiter la référence. Sinon, il n'y a pas de normes communes, il n'y a pas de références communes. Ceci est d'autant plus vrai, comme dit André Paul, dans ses textes, il y a déjà vieux comme lui, mais bon. C'est d'autant plus nécessaire pour les chrétiens, car ils n'ont pas d'autre type de référence matérielle, ni race, ni pays, ni histoire politique, ni histoire sociale commune. Qu'avons-nous, Européens, de ce point de vue, avec les chrétiens vietnamiens ? Rien. Pas la langue, pas le pays, pas l'histoire. Alors quel est le lien que nous avons matériel, des références avec eux ? La Bible, comme référence matérielle, je veux dire. Les canons permettent de se définir par rapport aux autres, de se situer par rapport aux autres. Il est évident qu'en déterminant les limites de la référence, on exclut tous ceux qui n'entrent pas dans cette référence. D'où les innombrables écrits qu'on appelle apocryphes. L'évangile de Thomas, l'évangile de je ne sais pas qui, et bon, bref, de Pierre, enfin, tout ce que vous voulez. De limiter et définir le canon, c'est un acte de la communauté ou du groupe pour se définir lui-même. Et comme il est dit dans le livre que je vous ai cité, le canon, vous avez eu la référence, il y a des écrits qui ne valent pas par leur qualité. Ils sont peut-être plus ou moins bonnes ou plus ou moins mauvaises, du point de vue littéraire. Mais il y a des écrits qui valent dans une perspective longue, dans une durée longue, aussi longtemps que les groupes qui s'y réfèrent durent. Bon, on peut dire que la Bible est une référence qui a eu une durée longue parce qu'il y a eu des groupes qui, grâce à elle, ont existé en tant que groupe. Aussi simple que ça. C'est pour ça que l'on peut appeler ces textes des textes fondateurs. Et du coup, ne peut pas être canonique celui qui ne contribue pas à l'unité du groupe. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière que l'histoire du canon est parallèle à l'histoire de l'unité des Églises. Ce n'est pas la perfection d'un texte qui les fait fondateur, mais le rassemblement dont il permet l'existence. Le rassemblement d'un groupe qui veut surmonter sa fragilité en tant que groupe et en tant qu'un groupe qui se réfère à une même dimension. Bon, en utilisant une phrase un peu à rive gauche, mais ce qui importe, c'est l'œuvre dont il, c'est-à-dire le texte, permet la possibilité. C'est un texte qui permet à un groupe d'exister. Et c'est dans ce sens qu'il vaut. Passons au dernier paragraphe de ce chapitre, l'inspiration. Si le canon a un sens, comme on vient de le dire, il est de ces faits considéré par les groupes qui le fait sien comme inspiré, ayant une valeur particulière. Et cette valeur particulière de ces textes, c'est quoi? C'est justement ce qu'on qualifie ou qu'on nomme. Ce sont des textes inspirés par Dieu. Autrement dit, par cette fonction qu'on lui attribue, on dit en même temps que ces textes ont une origine divine. Autrement dit, Dieu est intervenu dans l'élaboration de ces livres. On peut dire, si on tire les conséquences, que ces livres ont Dieu comme auteur. Mais une fois qu'on a dit ça, l'avalanche des questions, ça va. Et on a un droit, et même un devoir, de rendre compte de ce que l'on entend par inspiration. Ou, qu'est-ce qu'on entend quand on dit « ces livres ont Dieu comme auteur ». C'est très beau, mais ça veut dire quoi, effectivement? Là, il faut en rendre compte. Ce n'est pas seulement une affirmation, et puis après, on voit un coup, et puis fini. Non. Il faut, comme il a dit dans l'épître de Pierre, il faut toujours rendre compte de notre espérance. Même si on sait toujours qu'à la fin, il y a un saut, S-A-U-T, qui doit être fait, c'est-à-dire que ça ne relève pas de la rationalité, mais de l'adhésion. L'adhésion ne se commande pas. Ça ne se justifie pas forcément rationnellement. Bon. Quelques mots sur l'histoire de ces concepts d'inspiration dans la théologie, disons, classique. Le terme « inspiré » est utilisé deux fois, une fois de façon très nette et l'autre de façon équivalente. Le premier, c'est dans la deuxième épître à Timothée. Toute écriture inspirée par Dieu est utile pour l'enseignement. Et les termes inspirés, vous l'avez là, c'est très banal, hein, porté par l'esprit. La transcription n'est pas très très bonne, mais bon. Zeo nupsestos. Inspiré par des... Comme vous savez, en grec, on fait très très souvent des mots doubles avec les deux concepts qu'on veut mettre. Philosophie. Géologie. Géologie, deux mots, logie, logos, et géoterre, la science de la terre. Bon. Et là, c'est le mot zeos, Dieu, et nepstos, qui vient du mot aussi inspiré, ou esprit, ou vent, ou tout ce que vous voulez. Inspiré donc par Dieu pour tout enseignement. Ça, c'est le texte, comme je dis, de la deuxième à Pierre. À Timothée. Et dans le texte de la deuxième de Pierre, vous avez quelque chose d'autre, vous avez là. En effet, ce n'est pas par la volonté humaine qui a jamais produit un prophète, mais porté, du verbe féro, féroménoi, porté par l'Esprit Saint, que des hommes, enfin que des humains ont parlé de la part de Dieu. Donc, vous avez là les deux textes les plus explicites qui, dans l'écriture, explique ces phénomènes, disons, de l'inspiration. Vous me direz, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Bon. Première considération et affirmation contondante, la théorie de l'inspiration n'est pas originairement chrétienne ni biblique. C'est lui qui l'a utilisé d'abord, c'est le philosophe juif qui vivait à Alexandrie, comme son nom le dit, Philon d'Alexandrie. Un érudit juif qui a énormément écrit, je me demande comment il a pu faire pour écrire autant. Mais bon. Quelqu'un qui a vécu donc dans cette tranche de temps, moins de 50 avant Jésus-Christ à plus 50. Donc, on n'a pas les dates exactes, mais on les situe là. Et c'est lui qui a élaboré une véritable théorie de l'inspiration biblique. Mais il l'a fait en utilisant des catégories, des explications grecques. Les Grecs, de façon tout à fait banale, si vous voulez, disaient que les philosophes, les poètes et les prophètes était inspiré par la divinité. Bon. Prophète, poète et philosophe. C'est de là qu'il vient, je pense aussi, quand on dit que tel artiste est inspiré par Dieu. Quand on voit certaines œuvres, ça dépend aussi de la manière dont les spectateurs ou le destinataire voit les choses. Hier, par exemple, à Sainte-Marie, ils ont monté une exposition, des tableaux, etc. Je ne suis pas certain de mon point de vue que ce soit très inspiré, voire rien du tout. Mais enfin, bon. Chacun ses goûts. Cette doctrine grecque, comme quoi les divinités inspirent les prophètes, les philosophes et les poètes, va être appliquée par Philon d'Alexandrie aux auteurs bibliques et plus particulièrement à Moïse, bien sûr, et aux prophètes. Il va dire qu'effectivement, de la même façon que vous, les Grecs, vous dites que nous, nos livres ont été inspirés par Dieu aussi. Bon. Et c'est lui qui va parler d'une expression qui va faire, qui va avoir un grand succès. C'est Philon qui va parler de Dieu comme le divin souffleur. Non pas chou-fleur, mais souffleur. Et il va, par cette théorie, il va donner, si vous voulez, une double paternité au texte, si vous voulez. D'une part, la divinité, et d'autre part, l'homme. Parce que Dieu souffle sur une flûte, enfin, sur les hommes qui sont chargés concrètement de l'exécution. Avec cette particularité que Philon va insister davantage que les Grecs dans la partie de l'action divine par rapport au produit final. Donc, Dieu est plus actif et plus responsable des textes bibliques que les hommes dans le produit final, donc dans la Bible. La part de l'homme chez Philon devient de plus en plus rare au profit de la participation, disons, divine. Cette tendance à l'instrumentalisation de l'homme, de l'outil humain, de la flûte, si vous voulez, sera de plus en plus présente chez les auteurs chrétiens qui vont reprendre à 100% la théorie de Philon pour expliquer ça. Et c'est là qu'on trouve, à partir de l'image du souffleur, qu'on va trouver l'image de la flûte. Grégoire le Grand, qui est donc un auteur du début du 7e siècle, il va utiliser une autre image, le calame des dieux. Maintenant, on parle souvent la plume du président qui écrit ses discours, etc. Mais ça, c'est un peu la même histoire, mais sauf que là, c'est extrêmement concret et de façon matérielle. On dit l'homme, c'est la plume, ou le stylo, si vous voulez, parce que parler maintenant de calame, c'est pas très compréhensible pour les communs des mortels, mais l'homme, l'auteur, l'écrivain, le prophète humain, devient la plume, mais dans le sens matériel. Et c'est même Grégoire qui va tirer la conclusion qui s'impose, disant « Dieu est le vrai auteur de l'écriture dans la mesure, dans les sens forts du terme. » Et là, je le cite, par la foi, nous croyons que l'auteur du livre est le Saint-Esprit. C'est donc lui-même qui l'a écrit, lui qui était inspirateur de l'œuvre. Et ces textes de Grégoire le Grand vont être cités tels quels dans l'encyclique consacrée à la Bible, la première de l'histoire, de Léon XIII en 1893. Comme si, une fois qu'on a dit ça, le problème était réglé. Eh bien, que dalle. Au contraire. Parce que, quelques mots sur les questionnements actuels et quelques pistes de réflexion. Depuis des années, quand même, on a progressé dans une meilleure connaissance du processus de l'écriture. Et en même temps, et par ailleurs, on a eu des découvertes archéologiques, etc., qui, les deux combinés, ne permettent plus, honnêtement, de tenir ces discours comme si tout était réglé par des affirmations. Dieu est l'auteur de l'Esprit Saint. Sauf, Dieu est l'auteur donc du texte biblique. Sauf à rester dans la représentation, par exemple, du Coran, la représentation populaire du Coran. Dieu aurait, ou l'ange ou Gabriel aurait dicté le Coran à Mahomet. Ben, c'est très bien. Même si là, on est certain maintenant que ce n'est pas vrai du tout. Enfin, ça s'est passé que le processus de création du Coran a été similaire au processus de création de la Bible. Mais ce qui est, dans le monde chrétien, déjà passablement développé et acquis, dans le monde musulman, pour l'instant, c'est seulement le fait de quelques savants. Enfin, bon. Comment, oui. Bah, par exemple, bon, je ne suis pas expert dans tous ces trucs, mais je viens très bien d'avoir vu, il y a déjà quelques années, pas mal d'années, une émission à la télé qui était très savante, mais bien faite, d'après laquelle on avait découvert au Yémen, avant la guerre actuelle, il y avait eu à Sanaa un incendie dans un quartier, etc. Il y avait une maison qui avait brûlé. Ça arrive. Même à Paris, même sans des gilets jaunes, verts ou rouges. Voilà. Et puis, dans les décombres de cette maison brûlée et effondrée, on avait trouvé pas mal des feuillets, si vous voulez, du Coran. Mais qui ne correspondaient pas matériellement partout à la version officielle du Coran depuis quelques siècles. Ni quant au contenu, ni quant à la calligraphie, etc. etc. Donc, et il disait qu'il est absolument certain maintenant, et qu'on le connaît, comme quoi il y a eu évidemment plusieurs familles textuelle du Coran. Autrement dit, il n'y avait pas un Coran identique partout. Et que ça avait provoqué, ça, on a une constance historique, ça avait provoqué des guerres assez féroces parmi les différents partisans de différentes familles de textes, disant c'est moi le bon Coran, c'est moi le vrai Coran. Et les autres disaient ta gueule, c'est moi. Et puis donc. Castagne. Et à un moment, je ne me souviens plus quel calife ou quelle autorité politique du monde arabo-musulman, comme on dit maintenant, il a eu marre, il a dit « ramassez-moi tous les exemplaires du Coran ». Il y a eu une chasse au Coran et il a donné préférence à une version du Coran et les autres brûlés. Du coup, n'ayant plus objet matériel pour se lancer à la gueule, eh ben, ils se sont calmés, ils ne se sont pas battus entre eux. Et actuellement, dans le monde scientifique, c'est archi connu. Et bon. Mais c'est le même phénomène qui a eu lieu dans le judaïsme. Dans les judaïsmes, nous avons évidemment le texte officiel de la synagogue qui a été officialisé, même si pas officiel, parce qu'il n'y a pas une autorité centrale, c'est les juifs, non plus. Enfin, le texte reçu, comme on dit, c'est le texte qu'on appelle massorétique, parce que, comme vous savez, originairement, l'hébreu était écrit uniquement avec les consonnes. Et les consonnes, vous pouvez les vocaliser de certaines façons ou d'une autre, et ça vous donne des textes différents. Vous prenez les trois, même pas, les mots opéra. Et vous changez la vocalisation, et ça vous donne quoi? Par exemple, apéro. Donc, ça, vous pouvez jouer tout ce que vous voulez. Du coup, ça donne une certaine, un certain flou au texte. Et encore une fois, une communauté avec des textes flous, c'est la garantie de la division et du manque d'identité commune. Du coup, dans le monde juif, ils ont commencé à... comme ils sont perdus relativement vite, à partir du 3e siècle, etc., l'usage habituel de l'hébreu, ça a été remplacé par l'arméen, parce que c'était la langue courante, c'est peu comme en France, quand on ne parlera plus français, mais on parlera anglais. Ça arrive, mais bon. Et du coup, à un moment, ils ont eu froid, et ils ont essayé de monter un système de vocalisation qui fixerait le sens reçu. Si vous fixez les voyelles, vous ne pourrez plus lire apéro, vous lirez toujours opéra. Ça, ils ont mis quand même 4 siècles à trouver un système de vocalisation admis par tous, etc. Ce qu'on appelle les massorètes, les experts qui ont travaillé dans toutes ces histoires de vocalisation. Ils sont arrivés à une vocalisation et à fixer une lecture du texte. C'est pour ça que quand on fait de la critique textuelle, quand on lit les textes en hébreu, etc., pour voir si les textes sont fiables, je ne sais pas quoi, ben, même dans les manuscrits et dans les éditions du texte hébreu, on vous met des signes pour dire, bon, ça c'est le texte écrit, mais ce qu'il faudrait lire, c'est ça. Donc, même actuellement, il y a quand même un certain flou. Et dans le monde juif, ils ont fait la même histoire. C'était au 9e siècle, je crois. Ils ont ramassé tous les manuscrits, etc. Ils ont gardé seulement ceux qui avaient été approuvés par la communauté à partir de la vocalisation, et les autres au feu. Sans gilet jaune, sans rien. Et le feu a bien pris parce que les parchemins secs, ça marche très bien. C'est très bon pour allumer le feu. Du coup, dans le monde juif, vous avez un texte, qui est le texte officiel de la synagogue, qui est celui qui nous sert à nous aussi comme texte de base. Mais encore une fois, tout n'était pas brûlé, parce qu'on n'arrive pas à tout savoir. Et du coup, en 1947, on a découvert le texte de Qumran. C'est pour ça que c'était une découverte majeure. Et de ce point de vue, Qumran est très important, parce que sauf le texte d'Esther, célèbre texte d'Esther, en dehors de ça, tous les textes de l'Ancien Testament sont présent à Qumran. Donc on peut comparer les textes. Et il faut reconnaître que la transmission du texte a été excellentissime, malgré les siècles. Et que, entre les textes officiels que nous avons maintenant et les textes de Qumran, les différences sont minimes. Donc là aussi, c'est quand même... Donc, ces phénomènes d'unification et... est un phénomène tout à fait classique. Hein? Donc, à partir de la diversité de manuscrits de base, des familles textuelles de base, à un moment, il faut unifier. Parce que sinon, oui.
Le texte de Qumran est en hébreu, donc non vocalisé.
Ah ben, tout à fait.
Et alors, le fait de dire que c'est une excellente traduction qui nous a été transmise,
Non, 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 c'est pas une traduction qui nous a été traduite. Que la matérialité du texte est la même, parce que vous pouvez avoir aussi des différences dans les consonnes.
Bien sûr.
Mais là, on voit que...
Au niveau au moins des consonnes, c'est correct.
Au niveau du texte.
Mais au niveau de la vocalisation, donc l'histoire de l'opéra et l'apéro...
Ah ben oui, mais ça effectivement, vous pouvez les... là, c'est au niveau de la... Mais vous avez maintenant... En Israël, par exemple, les journaux sont écrits uniquement avec les consonnes. Ouais. Sauf pour les néophytes qui arrivent, il y a un journal qui est écrit avec les voyelles. Mais sinon... Mais ça, c'est une question... Ça, c'est une question des pratiques. Et assez vite, vous allez lire sans voyelles. Même... Mais vous pouvez les faire, vous... Vous prenez un article du Figaro, du Monde ou de Libé, vous enlevez tous les voyelles et au bout de deux jours, vous n'en avez plus besoin. Parce que la manière de lire, c'est tellement inscrit dans vos cerveaux que ça marche. Bon. Donc, la manière de comprendre les textes a énormément changé. Par exemple, du point de vue, avant, on ne se posait pas la question de la psychologie de l'auteur. Comment ça fonctionne, comment influe dans la production littéraire la psychologie. Là, maintenant, c'est... Dans les processus de création littéraire, maintenant, on se pose cette question, ou aussi la sociologie de l'œuvre littéraire. On peut parler aussi du problème de la traduction. Dans le sens qu'effectivement, le texte hébreu a été traduit à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ en grec. Alors, est-ce que le texte grec est inspiré ou pas? Bon. Pour Philon, juif, il parle du texte hébreu et du texte grec comme des deux sœurs. Soit dit à égalité. S'il avait voulu montrer une prééminence par rapport au texte hébreu, il reparlait d'une mère et d'une fille. Là, elle parle de deux sœurs. Et dans le monde chrétien aussi, quelqu'un comme Barthélemy, qui est un super expert en critique textuelle, lui, il pense que la Septante, donc la traduction grecque, est aussi inspirée que le texte hébreu, pour une raison très simple, parce qu'il dit, le critère pour lui, c'est quelle est la famille des textes qui, pendant très longtemps, et pendant un nombre de communautés très grandes, a été utilisée au niveau liturgique, qui est le lieu où la Bible fonctionne. Et dit, si il y a une traduction etc., ben, c'est aussi inspiré que l'autre. Donc, le grec, de ce point de vue, a toutes les caractéristiques pour être inspiré. Et le syriaque, on peut dire aussi pareil. Bref.
Et le vietnamien, justement, puisqu'on travaille pour aller très très loin.
Mais le vietnamien n'est jamais considéré comme une langue biblique, parce qu'elle est tout à fait, d'une part, récente, et c'est pas encore, il n'y a pas encore eu suffisamment de vietnamiens, et est-ce qu'il y en a une traduction vietnamienne en France, laquelle vous allez prendre la traduction liturgique?
Au Vietnam, ils utilisent bien une ou des bibles.
Mais il faut savoir si au Vietnam, très souvent, les traductions ont été faites à partir des traductions européennes. Alors là, vraiment, là, ils n'ont aucune légitimité. La moindre chose qu'on puisse demander à une traduction pour qu'elle soit honnête, c'est qu'elle parte du texte source. C'est pour ça que j'avais dit que la traduction liturgique était bonne, mais pas honnête. La traduction liturgique que nous avons maintenant, hein. Pas honnête dans le sens qu'effectivement, ils proclament avec clairon et trompette qu'ils vont faire la traduction à partir du texte source. Bon, c'est exactement ce que la traduction liturgique espagnole disait, et dit, mais quand on arrive à un certain moment, là, clac, pouf, ils passent au grec, parce que idéologiquement, ça les intéresse plus. Mais ça, c'est pas honnête. Et le texte dont je parle, c'est Isaïe 7, 14, le texte hébreu dit de façon absolument évidente et sans discussion aucune, voici que la jeune femme est enceinte et elle va accoucher d'un fils qu'elle va appeler Emmanuel. Mais dans la traduction liturgique, ils mettent voici que la Vierge. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de la traduction de la Septante, il y avait déjà une manière de voir comme quoi la mère du Messie serait une vierge. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais le texte source ne parle absolument pas de vierge. Qu'il mette une note s'il veut dire ça. Mais pas qu'il mette ça dans le texte comme si c'était le texte. Là, c'est un manque d'honnêteté radicale, comme ça arrive souvent dans les instances officielles.
Est-ce que la traduction elle-même, donc l'acte de traduire, ne peut pas être inspiré ?
Mais justement, vous avez des textes dans la Bible dont mot à mot, on a les originaux dans les textes égyptiens. Vous avez deux chapitres entiers du livre des Proverbes. Bon alors, quand le Saint-Esprit agit.
Tout le temps.
Oh, non, ça c'est... Non, non, est-ce qu'il a inspiré les auteurs égyptiens au XVe siècle ?
Ben, pourquoi pas ?
Ah, moi, ça ne me gêne pas, mais il faut être conséquent. Bon.
Je ne vois pas. Il n'y a pas de raison pour que ça soit pas
non, inspiré. Mais ça c'est tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous si, effectivement, vous n'avez pas de problème.
Non, mais bon. Je n'ai pas dit que c'était la Bible. Que ça peut être parfaitement inspiré par le Saint-Esprit.
Si vous partez du fait, et si votre affirmation est l'affirmation d'après laquelle la Bible, qui est la référence pour le monde juif et le monde chrétien, est inspirée par Dieu en tant que parole du Dieu juif ou du Dieu chrétien, comment se fait-il qu'il a eu donc cette inspiration ? À moins que vous préfériez, attendez, à moins que vous préfériez penser que Dieu a inspiré au moment de passer la frontière.
Non, non, c'est pour préparer, parce qu'il y a eu les 11, vous l'avez dit au départ, les 11 premiers chapitres ne sont pas de nature historique.
Ah ben tout à fait.
Mais plutôt mythique, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Donc il y a eu une préparation, évolution, etc. Après tout, on peut dire, est-ce que les philosophes grecs n'ont pas pu être inspirés et utilisés par le Saint-Esprit pour aider l'avènement, enfin pas l'avènement, mais pour aider à la compréhension des concepts chrétiens ?
Je ne dis pas non. C'est une façon d'expliquer les faits, parce que sinon, on arrive à donner une importance majeure à la langue, par exemple. L'hébreu, comme c'est le cas dans le monde juif, même si ils ont des contradictions flagrantes qu'ils ne résolvent pas. Mais enfin bon. Alors, c'est pour ça que la théorie de l'inspiration en tant que telle qu'elle est expliquée jusqu'à maintenant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que d'un côté ou de l'autre, il y a des failles et des questions qui sont non résolu par cette explication. C'est pourquoi, des points de vue général, des points de vue méthodologique, il ne faut pas confondre c'est qu'on veut dire ou affirmer avec les explications qu'on en donne. Ce qu'on affirme, ou ce qu'on propose, et les explications qu'on va en donner ne sont pas du même niveau, ni du même ordre. Ce qui compte, c'est l'affirmation. Les dire comment on arrive à ça, ça c'est des tentatives calmement, satisfaites parce que les gens ont ces catégories, je ne sais pas quoi. Mais à un moment, on ne peut pas expliquer de la même façon, mais ce n'est pas un drame cosmique, parce que ce qui compte, c'est l'affirmation. Et la manière va obligatoirement changer. Ça, c'est... Les deux choses, l'affirmation et l'explication, ne sont pas du même ordre. Quelques réflexions... Donc, piste de réflexion. Le chrétien, dans cette histoire de l'inspiration, part d'une donnée fondatrice. Il croit, par la foi, que Jésus de Nazareth est le Christ, la manifestation définitive et plénière des dieux. Ça, c'est... lui qui est l'œuvre de Dieu, son Fils, c'est lui qui est la révélation de Dieu. Que là, sauf à changer de crèmerie, on est dans la bonne ligne. Or, l'Écriture, ou la Bible si vous voulez, est considérée dans ces mêmes mouvements de foi comme les témoignages, comme la manifestation privilégiée, quoique pas unique, qui permet la rencontre avec Jésus-Christ, qui est donc la manifestation majeure de la présence de Dieu auprès des hommes. La Bible est considérée comme les témoignages, les chemins privilégiés pour rencontrer le Christ. On l'a dit aussi... C'est dans ce sens que toujours dans la foi, on reconnaît dans ces paroles d'hommes qui sont la Bible, la trace des dieux dans la mesure où ces textes nous conduisent à la rencontre avec la parole de Dieu. C'est ce mécanisme-là que je viens de dire là qui est clé. Est essentiel. L'Écriture nous permet de rencontrer la parole des dieux. Dans la mesure où cette Écriture, cette Bible, conduit et mène à la rencontre avec Dieu par Jésus-Christ, dans la mesure où cette Bible conduit à la rencontre de Jésus-Christ, qui est la manifestation accomplie de Dieu, on peut dire que l'Écriture est inspirée parce qu'elle inspire la rencontre. Elle permet cette rencontre. C'est dans ce sens que cette Écriture a une qualité particulière, inspirée par Dieu, dans la mesure où elle nous permet de rencontrer la manifestation parfaite de Dieu. Est-ce que c'est un peu clair ou... Comment ?
C'est comme si on remontait à l'envers.
C'est-à-dire si la foi chrétienne est la rencontre de l'homme avec Dieu par Jésus-Christ. Bon, si on accepte ça comme postulat, comme point de départ, l'Écriture est de nature divine dans la mesure où elle permet cette rencontre avec Jésus-Christ qui est l'expression parfaite de Dieu, tel que la foi chrétienne le croit, évidemment. Ça ne vaut que pour ceux qui acceptent et qui tiennent à cette manière de voir. Pour quelqu'un qui ne croit pas ni en Jésus-Christ ni en personne, évidemment, ça ne marche pas. Ça ne sert pas. Mais pour quelqu'un, on se dit que là, il faut se le dire d'abord à soi-même. Pourquoi et en quoi l'Écriture est inspirée pour moi? Dans la mesure où l'Écriture nous conduit et nous mène à rencontrer Jésus-Christ que je considère comme étant l'expression parfaite de Dieu pour nous. Et si vous me dites que vous rencontrez Jésus-Christ, vous et la communauté croyante, en lisant les œuvres de Dostoïevski, on change de cambré et puis voilà.
Est-ce que Dostoïevski n'a pas... Est-ce que Dostoïevski...
On n'entend pas là-bas.
Ah, pardon. Est-ce que ce qu'a écrit Dostoïevski ne nous permet pas, à certains, de mieux comprendre la Bible?
Bah, oui. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Mais Dostoïevski n'a jamais été le ciment de la communauté croyante.
Ça, on est d'accord, j'ai jamais dit. Mais le fait qu'il n'ait jamais été le ciment
aussi,
ne veut pas dire
Zola
qu'il n'a pas
aussi
été inspiré.
Mais Zola
oui,
aussi.
Bah oui. Oui, mais c'est pour ça, le mot inspiration, ça joue plus particulièrement pour la Bible. Parce que, comme vous l'avez parfaitement dit bien avant moi, ça, c'est le moyen privilégié pour rencontrer Dieu. On est d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres expériences.
Bien sûr. Mais vous avez pu
même les apocryphes.
Mais vous avez tout à fait. Mais vous avez pu être aussi vous-même.
Bien sûr.
Source d'inspiration pour ce patrouille qui a rencontré, et pour d'autres, le contraire. Ça aurait pu être source de...
Ouais,
tout à fait. Mais là, on est face à une question de l'inspiration qui est affirmée par toute une communauté.
Effectivement, on est chrétien.
Justement, mais non, mais par exemple, quand on dit, quand on doit célébrer le mariage ou baptême, le baptême, de vous aller d'autres textes, oui. Mais les autres textes ne sont pas au même niveau référentiel. C'est ça.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les dates, justement, pour qu'on s'y retrouve? Est-ce que vous mettez études et approches récentes, donc c'est ce que vous nous dites là, c'est... Ça se situe à quelle époque comme étude? Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui?
C'est que je vous dis là maintenant.
Oui.
Oh oui, ça c'est, si vous voulez, c'est comme je vous l'ai dit la semaine dernière, cette question du canon et de l'inspiration n'est pas très à la mode. Mais on m'a dit, c'est à tort dans le sens que c'est une question vitale. D'abord, pour chacun, pour avoir ses références et ses croyances, etc., au clair. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut le faire. Mais actuellement, ce n'est pas très travaillé. Ce que je vous dis là, c'est ma manière de voir les choses et de m'expliquer à moi-même qu'est-ce que c'est que l'inspiration pour moi. Pour moi, c'est ce que vous avez mis là.
D'accord, c'est pour ça que je pense.
D'accord.
Vous mettez études et approches récentes, c'est pour ça que je...
Bon.
Et avant Jésus-Christ, l'Ancien Testament.
Quoi?
Ben, au niveau de l'inspiration.
Ben, c'est pas la même histoire. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, bon, par exemple, on est maintenant en plein avant. Et on lit pas mal de textes prophétiques. Les prophètes sont la conscience critique d'Israël. Comme je vous ai dit déjà, ils dénoncent tout ce qui ne va pas, et Dieu sait s'il y a des choses qui ne vont pas, et annoncent l'inimaginable. Mais ça a été, pour les chrétiens, fait chair et incarné en Jésus-Christ. Et les prophètes sont ceux qui ont donné naissance, qui ont sémé et cultivé l'espérance. Et l'espérance, c'est quelque chose de tout à fait vital dans l'Ancien Testament, est repris par les chrétiens disant, mais l'espérance s'est fait chair. Et c'est dans ce sens que, comme on dit de façon classique, l'Ancien Testament, c'est la préparation Evangelii, c'est-à-dire la préparation de l'Évangile. C'est que les Juifs ont horreur d'entendre, enfin, et quelque part, ils ont raison. Mais c'est-à-dire que nous ne pouvons pas comprendre Jésus-Christ sans le passé de lui-même et donc de son peuple. C'est un peu comme si vous vouliez comprendre les Français, sans parler de 1789. La France est incompréhensible sans ça. La France, actuellement, depuis. Donc, bon, une dernière question et je continue.
Je voulais simplement dire que le Christ lui-même s'est référé à l'Ancien Testament.
Ah ben, tout à fait. Il ne pourrait pas faire autrement.
Il n'y a plus de discussion possible.
Oui, non mais, la question c'est souvent, de, oui, mais enfin, pourquoi il faut passer par l'Ancien Testament, etc. Mais, ça vous plaît ou pas, l'universalisme, ça n'existe pas. C'est toujours du particulier. Qu'on peut ouvrir la fenêtre, on ne peut pas ouvrir la fenêtre autrement.
Oui.
Donc on parle de quelque part. Bon. On passe au numéro 9. N'ayez pas peur, le 9 est plus simple que le 8. Donc là, vous pouvez ranger votre doliprane. Mais en même temps, comme vous disiez, c'est. On ne peut pas se contenter de vagues généralités. Voilà. On a déjà dit que la foi a deux versants ou deux faces. D'une part, la face objective, dont on a parlé pratiquement jusqu'à maintenant, et deuxièmement, la phase subjective. C'est qu'on donne et qui la reçoit. Autrement dit, la phase objective, la phase subjective. Alors, c'est une manière de faire, de commencer quelque chose pour dire ce qui n'est pas. Non, du point de vue de la dimension subjective, quelles sont les choses qu'on peut déjà écarter pour dire ce n'est pas. Par exemple, un code de morale. Quelles sont donc les réductions de la foi chrétienne du point de vue de celui qui reçoit, mais ça on entend très souvent, j'ai encore entendu ça samedi, non pas à la manif, mais ailleurs, préparer des baptêmes, etc. Et la tentation très forte de dire, oui, moi je veux que mon enfant, ou moi-même, je m'ai baptisé parce que, pour transmettre des valeurs.
Mais c'est dit dans la publicité sur Radio Notre-Dame, transmettez-lui des valeurs.
Je ne suis pas sûr que je signerai la pub de Notre-Dame.
Non, mais je le dis.
Ah, justement, non, mais c'est extrêmement fréquent. Je ne dis pas que la foi ne comporte pas des valeurs, ça c'est absolument certain. Mais ce n'est pas ça. Donc, il faut, si vous venez, code de morale, mais vous le trouvez aussi chez les musulmans, chez les athées, chez les républicains virulents aussi. Bon, personne ne va vous dire qu'il n'a pas de valeur morale. Même un idéal de vie. Là, maintenant, c'est déjà passé, mais dans les années 70, par exemple, dans les communautés chrétiennes, etc., on avait toujours la discussion, est-ce que le chrétien, l'idéal de vie du chrétien par rapport à l'idéal de vie, à l'engagement politique, etc., est-ce que par rapport aux non-croyants. Là, il est évident qu'il y a des non-croyants qui ont des idéaux de vie aussi recommandables que l'idéal de vie que les chrétiens peuvent avoir et surtout de l'idéal de vie que nous, chrétiens, nous mettons en œuvre. Ce n'est pas non plus, du point de vue récipiendaire, si l'on peut dire, être pratiquant d'une certaine série d'actes du culte. Dans les enquêtes sociologiques, on réduit le chrétien, le catho, ceux qui vont à la messe dimanche. Là, maintenant, ils sont en train d'échanger parce que on est passé d'une sorte de la messe de dimanche, c'était un peu comme une obligation absolue qui distinguait le chrétien, le bon chrétien du mauvais chrétien. Moi, je sais que je choque pas mal des gens quand je dis la première fois que je manquais à une messe de dimanche, c'était le dimanche après mon ordination. Et tout ça pour aller à une fête. Non, je suis allé à une fête, village, et comme il fallait prendre les cars, etc., ben, je n'ai pas la messe. Bon. Mais même ça, on ne va pas jouer à une sorte de comptabilisation. C'est la question de participer parce qu'on le veut et parce qu'on ressent le besoin. Oui.
La différence même dans une même ville, dans différentes églises, différents prêtres, même si la trame est grosso modo la même, chaque église, donc chaque communauté a plus ou moins des rituels, vous en avez cité certains. Et du coup, en fait, à la fois, il y a une perte de rituel, c'est-à-dire que tout le monde fait un peu ce qu'il veut, et il n'y a plus de rituel de référence. Tout en ayant à l'esprit que tout un chacun, comme dans sa vie privée, on a besoin pour se sentir chez soi de toute une sorte de rituel. Nous, à titre privé, dans nos vies, on est bourré de rituels, et
fait que notre vie, même si on s'en débarrassait, a une espèce de part supplémentaire. Et moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que sans aller dans le rite encens, calice doré, etc., qui sont quand même l'antithèse extrême des premiers rites chrétiens, on est allé jusqu'à l'extrême, etc. Moi, quand je vois d'une communauté à une autre, l'amplitude et la différence et la liberté qu'on prend avec la pratique du culte ou l'organisation du culte dans l'Église, je me dis finalement, on a perdu quand même un certain formalisme et un certain rigorisme, et plus personne ne sait à quoi correspond quoi, etc. Et d'une certaine manière, je pense que les Juifs, et peut-être d'une certaine manière les musulmans s'y retrouvent plus, justement parce que ils ont, à l'excès, eux, conservé tous les rituels. Quand vous allez à la moindre cérémonie juive, etc., je veux dire, tout le monde est absorbé, peu importe l'authenticité ou le sens qu'ils ont, ou s'ils sont en adéquation avec les Écritures, peu importe. Mais quand vous voyez le fait que chacun a ses rituels et d'une manière est embarqué dans sa prière par un certain nombre de gestes et de trucs très répétitifs qu'au final, etc., ça participe à la foi. Or, nous, on les a complètement... Je vais être très dure, hein, mais il y a des moments où il y a des cérémonies où franchement, les prêtres font des trucs, où il y a des textes qui sont dits, moi, ça me heurte. Enfin, je veux dire, il y a des poètes, il y a des chansons, il y a des musiques qui n'ont rien à faire dans une église. Et pourtant, je ne suis pas une grenouille de bénitier. Mais on est passé de l'orthodoxie judéo-islamiste, on va dire, à nous, une espèce de grande fête foraine où on fait n'importe quoi dans les églises. Oui, et je ne parle pas de Saint-Nicolas du Chardonnay, hein. C'est pas de ça que je parle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien, à un moment donné, de dire le rituel, ça ne correspond plus à rien, etc. Mais à quel moment l'église, là,
si
à Rome, a réinstitué un rituel, une liturgie, quelque chose qui soit à la fois simple, proche des fondamentaux de la religion catholique, sans virer dans un excès d'autorité, etc. Pourquoi ?
Je suis tout à fait d'accord, mais la question, c'est la question, disons, de la formation des gens. Si vous voulez faire une tarte aux pommes...
Oui, il y a 50 manières de la faire.
D'accord, comment ?
Il y a 50 manières de la faire.
Plus. Au moins 150, au moins. Mais si vous voulez appeler votre produit tarte aux pommes, il faut qu'il y ait de la pomme.
Oui.
Non. Donc, et ça, vous avez tout à fait raison. C'est une des failles de Vatican II. C'est qu'on a fait le truc, mais après, on n'a pas mis le paquet à former les gens, à savoir ce qu'il faut, c'est qu'on fait. À avoir conscience. Là, je dis par exemple, je forme des blagues, mais vous prenez des vaches. Et à Paris, de façon générale, vous montez un commando de gilets verts et vous prenez toutes les églises. Et au moment où le prêtre X va sortir pour présider, et célébrer, vous célébrez tous, il va sortir pour présider, vous lui dites, Coco, tu n'auras que la Bible devant toi. Il y aurait la panique générale parce qu'il s'apprend le texte et réfère à dire, mais ils n'ont pas interrogé, pas la. Très souvent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Si vous leur dites, mais la prière eucharistique est le cœur de la chose, mais faites-la. Ils vont vous sortir des formules. Mais ils sont dans les capacités de écrire ou de dire ou de créer eux-mêmes une prière eucharistique. Je l'ai une fois, on était en Israël et c'était la veille du 25 juillet. Quoi. J'étais avec un groupe espagnol et le 25 juillet, c'est la fête, c'est la Jacques, c'est partout en Espagne. Je dis bon, est-ce que maintenant on fait une quartier? Oui, d'accord.
on était en plein désert, dans le Négatif. Très bien. Je prendrai du pain du vin. Qui veut présider? Et là, les deux gars, oui, d'accord, moi. Il a dit, après, si tu as un Michel Junot, mais alors, c'est un peu comme ça. Bon, il a fait comme il a pu, et après il m'a dit qu'il avait une nuit d'enfer. Parce qu'il a passé toute la nuit à essayer de se souvenir, de se rappeler les phrases. Mais au lieu de dire, mais comment est-ce que je sais ce que je fais, et c'est à mon avis, un des drames majeurs, c'est ça, c'est le manque d'appropriation de ce qu'on fait rituellement. Et le manque d'appropriation qui s'est traduit par. Justement, maintenant, on te fait des chants parfois particulièrement nuls, mais particulièrement nuls. Ça, c'est tout à fait d'accord. C'est tout à fait d'accord. Et. Ou des signes qui. Mais en même temps, quand vous faites les choses. Honnêtement et sérieusement, enfin, hier, enfin, c'est pas ni ici, ni là où je vais. Dans une parole, pas hier. Il y avait une réunion de gens, etc., sur les textes bibliques du jour. C'est lui qui devait le faire, c'était un vicaire jeune, dynamique, bouge pas. Très bien. Il n'avait pas préparé un gramme. Du coup, il n'a pas du tout ni expliqué ni commenté le texte qu'il devait faire. Il y avait trois généralités sur l'avant, puis il lui dit, mais tu ne me lâches pas pour la réunion. Non, non, il faut que j'aille préparer mon homélie un quart d'heure avant. Moi, ce mec-là, je le prends et à poil, je le fouette. c'était même rigueur et d'honnêteté, comment voulez-vous, après que les gens soient un peu pris, voilà. C'est un manque d'honnêteté très, très grave. Et on se contente des saupoudrées, comme les sucres glaces, un peu les sucres glaces, de quelques piusités par-ci par-là. Et puis, oui. Dernière patrouille.
Ce que vous dites sur l'honnêteté, l'application, etc., je partage à 1000%. En revanche, là, on parle de rite, on ne parle pas de sacrement.
Ah, mais tout à fait. Bon,
et à une fois. Pour le sacrement, à la limite, même si le prêtre ne croit pas à ce qu'il raconte.
Mais je sais bien. Ben, non, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça, mon ami. C'est pas ça. Le problème, c'est que trop souvent, comme disait très bien Louis-Marie Chauveau, qui était professeur ici, l'éthologie des sacrements, qui est considérée au niveau mondial comme des meilleurs théologiens de théologie sacramentaire, il disait trop souvent maintenant, c'est que les jeunes prêtres célèbrent les rites, mais ils ne célèbrent pas l'Eucharistie. Et ça, on le voit très bien. Quand vous êtes obsédé par la goutte d'eau qu'on va mettre dans le machin, etc., trop souvent, on se contente de célébrer le rite et pas le casse. Bon. On l'arrête parce que sinon, ça nous dévie et on sera engueulé par la chef.